Bonjour Raymond Richard au micro, bien nous nous retrouvons pour notre rendez-vous mensuel avec le Cercle Laïque. Et aujourd'hui, dans cette émission du Cercle Laïque, eh bien nous allons entendre Mélanie Fontenay, à qui je vais demander de se présenter, et Martine Vivès, qui est la présidente du Cercle et que vous connaissez bien puisque nous faisons cette émission déjà depuis plusieurs années. Alors, quelle nouvelle Martine ?
Eh bien, bonjour. Je vais rapidement vous dire que les activités du Cercle Laïque ont redémarré
en septembre,
oui, et puis j'allais dire presque plein pot. Hein. On a une vingtaine d'activités extrêmement différentes et d'autres activités qui sont apportées aussi par des associations hébergées et qui sont tout aussi différentes. Donc, voilà, on tourne beaucoup autour de...
Du théâtre quand même.
Du théâtre, qui est notre activité la plus ancienne et à laquelle on tient énormément. Et puis beaucoup d'activités artistiques ou de bien-être, donc extrêmement variées. Voilà.
Puis autour des mots aussi, la lecture.
La lecture, l'écriture. Il y a un atelier d'écriture également, de la lecture auprès des personnes qu'on dit maintenant empêchées, hein, des personnes qui sont un peu éloignées ou qui ne peuvent pas se déplacer très facilement, maisons de retraite, les personnes handicapées, etc. Voilà.
Dans ce domaine, il y a la poésie aussi, c'est quand même
important.
Les cafés poésie.
Il y en avait un hier après-midi d'ailleurs, en coopération avec Amnesty International pour... mettre en valeur toute la poésie autour des droits humains. Voilà.
Donc des choses importantes où on allie la culture, mais ce n'est pas la culture simplement, je dirais, classique. La culture pour chacun,
oui,
je crois que ça c'est important à dire, que la culture c'est aussi ce que chacun fait, qu'il y a une culture à reconnaître
C'est assez éloigné, effectivement, cette culture classique. Elle n'est pas du tout à négliger, loin de là.
Mais il en faut, c'est le berceau.
Il en faut, oui. Et elle est souvent à l'origine de beaucoup d'autres choses, y compris...
Puis elle est formatrice.
Oui, tout à fait. Y compris lorsqu'on fait des adaptations ou des interprétations, voilà. Mais oui, nous sommes davantage... proche de l'éducation populaire et de notre souhait, c'est vraiment de mettre la culture à la disposition du plus grand nombre, quoi. Et on n'a pas d'idées préconçues et de préjugés. On essaie de faire des choses de qualité, de recevoir des choses de qualité, mais qui ne sont pas forcément dans les standards et dans les choses très classiques. Ça peut l'être aussi, mais on n'a pas d'exclusive, mais... On s'attache à diffuser auprès, ou du moins à essayer de diffuser auprès du plus grand nombre.
Mélanie, vous venez d'arriver au Cercle Laïque.
Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci de l'invitation. Effectivement, je viens d'arriver au Cercle Laïque. Et comme en a parlé Martine, ce qui m'a plu aussi dans cette association, c'est le caractère... tournée vers l'éducation populaire, c'est décloisonner une culture qui, comme vous l'avez dit, peut sembler élitiste pour certains, surtout le théâtre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le théâtre touche et peut toucher une plus large population. Et
vous êtes arrivée pour le théâtre.
Absolument, voilà, pardon, je ne l'ai pas dit. Je suis responsable de l'atelier théâtre, donc qui est une pratique amateur au Cercle Laïque. Cet atelier théâtre, je dirais même ces ateliers théâtre, sont pour tout âge. Il y a de tout petits, de 6 ans jusqu'aux adultes. Donc il y a 8 groupes en tout, dont un IME également. 8 groupes, oui, par semaine. Voilà. Dont un IME, l'IME de Vernouillet, avec lequel le Cercle Laïque est en partenariat aussi, convention.
Donc là, c'est vous qui allez sur place ?
Non, c'est l'IME qui se déplace, voilà.
Ils viennent
le vendredi.
Avec leur petit car ?
Tout à fait, voilà.
D'accord.
Et donc, 8 spectacles sont en train de se mettre en place, 7 exactement, pour la fin de l'année, avec chacun des groupes, je dirais même représentation plus que spectacle. Mais voilà, on s'attelle avec certains groupes, même à écrire. Il y a des configurations un petit peu particulières de groupes, des groupes uniquement de jeunes femmes quatre jeunes femmes. Il n'y a pas beaucoup de pièces aujourd'hui dans le répertoire écrites pour quatre jeunes femmes de 17 ans. Donc, on essaye de travailler ensemble sur...
C'est elles qui l'ont écrit ?
Non, pas du tout. C'est je l'écris avec leurs propositions, leur élan, ce qui vient. Et bon, il y a une thématique quand même. On travaille...
Thématique du travail et de ce qu'elles veulent dire.
Oui, bah là, plutôt, c'est, on parle de l'anarchie et du féminisme. Donc, on est très, très ancré dans les problématiques actuelles, disons.
C'est proche des problématiques adolescentes.
Absolument, ouais, voilà. Et puis pas que, et heureusement. Mais voilà, il y a de tout. On travaille sur le compte avec les petits. On est en train de voir avec les groupes adultes, dont Martine fait partie, pour mettre en place le porteur d'histoire d'Alexis Michalik, qui est une œuvre qui tourne beaucoup sur Paris depuis 10 ans maintenant. Et qui est un petit peu un ovni sur la scène théâtrale, très contemporain. Voilà, aussi proposer des œuvres contemporaines. Et, ou comment adapter le répertoire classique
à une pratique amateur.
À une pratique amateur, voilà, et modernisée, disons.
Oui, alors, le théâtre, c'était l'ADN du cercle, donc vous arrivez dans quelque chose où déjà, il y a quand même beaucoup, beaucoup est fait, et en même temps, il faut se tourner vers l'avenir.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs intéressant que vous disiez cela parce que le cercle a quasiment toujours proposé des activités théâtre, principalement avec, depuis 10 ans, il me semblait, avec Yves Liébault, mon prédécesseur.
11 ans, oui.
11 ans. Mmh. Et voilà, on a chacun... Enfin, Yves travaille d'une certaine manière, moi d'une autre. Et c'est... Donc là, on apporte aussi...
La liberté de ceux qui initient l'activité.
Voilà, tout à fait. On apporte aussi quelque chose de nouveau par le fait que ma pratique et la manière dont je vais essayer modestement d'enseigner l'art dramatique, disons plus que le théâtre, va être différente de celle de Yves. Et donc, voilà,
c'est un renouveau, c'est une pratique différente.
Oui, tout à fait,
c'est autre chose. Et puis, c'est bien, à la fois pour les pratiquants et aussi pour le cercle, si ça peut faire bouger des choses, bouger des lignes, c'est bien, c'est toujours bien.
Oui, puis c'est pas rien, c'est un vrai, je le prends vraiment comme une forme d'honneur. Enfin, j'ai été très touchée lorsque j'ai vu, à l'occasion des Journées du patrimoine, notamment que vous aviez ressorti les archives du théâtre, alors les photos en noir et blanc du théâtre des années 60, des années 70. Et c'est vraiment un lieu chargé d'histoire et prendre la relève in situ. Enfin, dans ce...
Oui, c'est ça, se dire, on est...
Oui,
mais on s'inscrit dans une histoire.
Oui, c'est ça qui est magique.
Mais c'est fort de cette histoire, comment s'adapter au monde d'aujourd'hui.
Absolument.
Ah ben oui.
Parce que finalement, à chaque époque, il y a une adaptation. Enfin, on sentait que, en fonction des thèmes de la société, on voyait les pièces qui épousaient les thèmes de la société,
Complètement.
Finalement.
Évidemment. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, un des devoirs et des rôles du théâtre, c'est aussi de faire réfléchir sur les problématiques contemporaines à notre époque.
Alors, quand on vient et on se trouve dans des locaux, disons, qui sont adaptés à un autre âge. Donc, il y a aussi toute cette... parlez-nous un peu de ce travail de préparation, de remise. Alors, ce n'est pas une remise aux normes, mais c'est une remise aux normes dans le sens de l'ouverture, des spectacles pour aujourd'hui.
Alors, oui, effectivement, c'est... pour préciser aux auditeurs, avant de commencer ce travail en tant que pédagogue, j'ai d'abord travaillé à remettre la scène de manière un petit peu plus fonctionnelle, en tout cas de rénover l'espace scénique pour pouvoir y accueillir des compagnies amateurs, mais aussi professionnelles. Et donc oui, ça a été un travail assez long, disons, pas simple. Effectivement, les bâtiments, je crois qu'ils datent des années 70 ou 80.
C'est même
plus
voilà,
ancien.
Beaucoup plus ancien que ça.
Oui.
Bon, il y avait déjà
1910,
eu des...
1910. Alors bon, il y a déjà eu des...
Voilà, il y a eu des réfections de fait.
Oui, des aménagements, des choses. Mais là, c'est vrai qu'on n'avait pas touché à l'espace scénique depuis une bonne dizaine d'années, plus que ça même. Oui.
Donc, aujourd'hui, donc j'invite tous ceux à... pour qui ça pourrait être intéressant de venir découvrir l'espace scénique. Il y a tout un système lumineux, tout un parc lumineux avec des découpes. Les découpes sont des appareils de lumineux qui permettent de faire des effets de lumière particuliers, découper la lumière, comme son nom l'indique. qui sont de très beaux outils. D'ailleurs, c'est une chance de pouvoir travailler avec ce matériel-là. Il y a très peu de salles, si ce n'est peut-être le théâtre de Dreux, le nouveau théâtre, et également atelier à spectacle. Autrement, voilà, c'est pas rien d'avoir ce matériel à disposition. Et donc,
Oui, alors voilà, ces travaux, ils ont été possibles aussi parce que le Cercle Laïque a enfin vendu son dernier centre de vacances qui se trouvait à Mauzac en Dordogne. Et donc, indépendamment du fait que ça ne pèsera plus en négatif sur notre fonctionnement, il nous restait évidemment un petit peu d'argent qui a permis de faire cet investissement, quoi. Et d'ores et déjà, nous avons accueilli, là, depuis la rentrée, 4 troupes de théâtre amateur. Je suis un petit peu mal placée pour en parler puisque j'étais malheureusement absente sur la période où ils sont venus, mais je sais que ça a donné vraiment toute satisfaction au public qui s'était déplacé et que c'était certes du théâtre amateur, mais avec une certaine qualité quand même. Et je pense que notre salle, elle répond aussi à un certain nombre de critères qui manquaient sans doute sur l'agglomération. C'est-à-dire que c'est une salle de petite jauge, mais avec une scène qui maintenant est en plus très relativement performante en tout cas, et ça fait partie des lieux qui sont recherchés, y compris peut-être par des artistes locaux qui sont en recherche de salles moins importantes et, disons-le, moins onéreuses.
Oui, j'allais dire qu'ils ne peuvent pas se payer le théâtre, par exemple.
Voilà. Absolument, oui. Il faut savoir que ça reste une association et le prix de location de la salle est absolument dérisoire, comme vient de le dire Martine, par rapport à ce que vous pourriez trouver ailleurs avec la même prestation, disons, en tout cas d'appareils et de mise à disposition de l'espace scénique. Et d'ailleurs, ce n'est pas réservé qu'aux compagnies de théâtre, hein, mais compagnies de danse, voilà, ou toute autre personne amenée à travailler sur
scène. Tout type de spectacle.
Tout type de spectacle, tout à fait.
Alors, marionnettes. On aimerait bien, d'ailleurs, en faire une inauguration un petit peu officiel pour le faire savoir au grand public et que justement les théâtreux professionnels ou les conteurs ou les artistes en général aient connaissance vraiment de cette possibilité qui leur est offerte maintenant, quoi. Mais la date, on n'a pas encore réussi.
Parce que j'allais dire à la date.
On n'a pas encore réussi à la coincer.
Première sur Radio Grand Ciel. On annonce la date de l'inauguration.
Je suis désolée, il n'y a pas de scoop.
Il n'y a pas de scoop. Bon, eh bien, s'il n'y a pas de scoop, on va faire quand même une petite pause. Toujours sur Radio Grand Ciel et pour l'émission du Cercle Laïque. Mélanie, vous êtes en responsabilité du théâtre et d'emblée, vous avez dit il y a 8 cours. Alors, comment ça se passe? Parce que ça intéresse peut-être quelques-uns de nos auditeurs de venir, parce que le théâtre a une fonction d'expression, mais aussi une fonction de thérapeutique. On peut
Absolument.
Parler de ses problèmes,
oui,
on peut, enfin, et puis d'échange, parce que j'imagine qu'entre ceux qui jouent, on échange beaucoup.
Complètement.
Donc, parlez-nous un peu de ces cours.
Alors, pour partir du début, dans ces 8 ateliers, chaque atelier est donc découpé par tranche d'âge. Je fais d'ailleurs un appel à tous les parents qui auraient des enfants de 6 à 9 ans intéressés pour pratiquer l'art dramatique et le théâtre. Il reste des places. Voilà. On est en train de, avec ces tout petits, sur mes plus petits groupes, d'écrire une pièce adaptée d'un conte. Et donc voilà, ça reste ouvert s'il y en a toujours qui sont intéressés. Les autres groupes étant complets, je vous invite à reconduire l'année prochaine pour une future inscription.
Donc on ne peut pas s'inscrire maintenant au théâtre pour les autres groupes. Mais parlons quand même des autres groupes.
Tout à fait. Eh bien, il y a quelque chose de très commun à tous ces groupes, c'est que depuis le début de l'année, je ne les fais travailler que sur le corps, et uniquement sur le corps. C'est une méthode stanislavskienne. Voilà, je suis partie de cette école. Constantin Stanislavski, pour la petite histoire, c'est un très célèbre metteur en scène, pédagogue du théâtre du 19e. Et nous travaillons sur le geste, sur le rythme, sur les temps. Voilà, parce que tout ce qui est important aussi dans le théâtre, c'est les moments d'arrêt, les moments de silence. Et donc, avant de leur proposer à travailler sur la voix, je les ai beaucoup fait travailler sur le corps. Chose qu'on va continuer à faire tout au long de l'année, en y incluant, là c'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à faire, des parties de texte, apprendre la diction, apprendre à ponctuer, et à travailler ensemble avec chaque groupe un spectacle. Donc déjà on découvre les textes, les débuts de texte, ce qu'on a fait déjà la semaine dernière, on vient de commencer ça. Et alors effectivement ce qui est très intéressant, au cours de ces ateliers, c'est principalement d'ailleurs avec les jeunes ados, on est amené à beaucoup discuter sur des questions. Qu'est-ce que le genre ? J'ai beaucoup de questions des jeunes comme ça. La scène de théâtre, c'est aussi un espace ouvert pour que chacun s'exprime. Ils se sentent assez en confiance de me poser des questions et de se poser des questions déjà à eux-mêmes, les exprimer à voix haute. C'est quoi être une fille ? C'est quoi être un garçon ? Pourquoi c'est quoi l'amour? C'est quoi la mort? Enfin, voilà, toutes ces questions-là auxquelles, forcément, on n'a pas toujours la réponse. On a assez compliqué d'y répondre.
On était bons l'année dernière en proposant le genre.
Oui, tout à fait.
C'est très actuel, ouais. En plus. Et aujourd'hui, moi, je me rends beaucoup compte, en travaillant avec eux et avec ces jeunes, qu'il y a des vraies questions de société auxquelles ils n'ont pas de réponse. Et qu'il y en a beaucoup qui ne trouvent pas non
mais
plus.
Mais nous non plus. Nous non plus.
Oui, tout à fait, nous non plus.
Puis il y a telle pratique qui paraissent aller de soi, en fait, dans n'importe quel groupe. On voit que les rôles sont assignés ou s'assignent tout seuls.
Absolument.
Et en fonction de quelque chose qui s'est toujours fait, et dans lequel, effectivement, la femme a un rôle
tout
un peu secondaire.
Tout à fait. Alors ça, absolument, pour la partie genre, et même, on le voit à travers les exercices, il est beaucoup plus simple pour des jeunes ados d'exprimer aujourd'hui la colère, la haine, que l'amour ou la gentillesse ou la bienveillance. Et donc, je leur dis pourquoi, à votre avis ? Donc, c'est aussi des codes de nos sociétés. On est dans des sociétés où la violence est exacerbée. Dire je t'aime à quelqu'un ou tu es beau, tu es belle gratuitement, sans impliquer quoi que ce soit, c'est très difficile, c'est de la mise à nu. Donc, on se met en danger à travers ça. Et on essaye aussi, à travers ces exercices, à transgresser tous ces interdits implicites que les jeunes peuvent avoir et accumulent, en fait, très tôt, très jeunes.
Alors, je trouve dans ce que vous dites, et notamment le rôle de la violence, est-ce que, par exemple, puisque j'imagine que pour les jeunes, il y a des jeunes en scolarité, il y avait cet interdit, on ne parlait pas, le harcèlement à l'école, bon, on avait l'impression que l'école était un lieu sanctuaire, et en fait, ça ne l'était pas. Mais maintenant, on ose dire, alors on parle de harcèlement, et on a l'impression que c'est nouveau, alors qu'en fait, je prends un témoin... un chef d'établissement.
Oui, oui. Beaucoup de choses sont cachées et sont restées cachées très longtemps. Et puis, il y a tout un tas de choses parce que c'est difficile aussi pour un chef d'établissement de dire il y a de la drogue qui circule, il y a du shit, il y a du... voilà. Mais...
Il y a des gosses qui se tapent dessus.
Oui, bien sûr. On se met en position de faiblesse si on en parle. C'est-à-dire que... Moi, je maintiens qu'un chef d'établissement qui dit qu'il n'y a pas... qu'il ne circule pas de drogue dans son établissement, soit il ne le connaît pas, soit il ferme les yeux, ou il le nie. Mais
il est dans le déni ou dans le mensonge.
Mais voilà, ça circule partout, il y a tout, partout, quel que soit l'établissement. Par contre, on peut faire des choses contre. Enfin,
contre,
voilà,
bien sûr.
Il y a un engagement après, mais je ne vois pas trop comment on peut s'engager si on nie les
la
choses.
Réalité,
quoi. Voilà,
oui.
si on les nie. Je vois difficilement comment on peut lutter contre. Mais par exemple, oui, sur la vie des établissements, bon, c'est un autre sujet.
Mais non, mais c'est.
Il y a beaucoup de.
Parce que cette violence, j'imagine que
aussi.
La violence à l'école, on la ressent. Et est-ce que. Alors, c'est une question. Est-ce que le fait d'être dans une société très numérique, très médiatisée, dans laquelle les réseaux sociaux jouent un rôle important, est-ce que ça a une implication dans le théâtre?
Ah oui, complètement. C'est d'ailleurs assez fou. Parfois, voilà, il y a des exercices d'improvisation, donc une mise en marche où chacun dans l'espace s'arrête. Je travaille beaucoup au tambour, avec le rythme et la musicalité. Le tambour s'arrête, il s'arrête, ils prennent une pause. Alors, thématisé ou non, mais quand, par exemple, le thème est libre, voilà, les jeunes ont tous un téléphone dans la main, tous. Ou bien une PlayStation, une Game Boy, un truc. Et je leur dis, vous voyez, l'impact que la société... L'impact que la société a sur vous, cette société standardisée, entrave votre imaginaire et ne vous permet pas de créer. En fait, là, vous ne créez pas, vous reproduisez des codes que la société vous a mis dans les mains.
Que Google vous envoie.
Bien sûr, mais j'ai envie de dire, pour les adultes, c'est pareil. L'exercice étant, on marche dans la rue. OK, vous faites quoi? Il y en a trois qui étaient en retard au boulot, une qui faisait les courses et... une autre retraitée qui avait la chance d'admirer des statues et de prendre le temps de faire du tourisme. Mais c'est très... effectivement, la société, notre société de consommation, aujourd'hui, a un énorme impact sur nos limites de création, nos potentiels de création. Et c'est ce qu'on essaye, justement, d'éclater un peu, d'ouvrir d'autres portes à ces jeunes, et moins jeunes, d'ailleurs. Voilà.
Oui, donc il y a effectivement l'impact du numérique et des réseaux sociaux dans
mais
le
c'est
théâtre.
À partir de 8 ans. Avant 8 ans, donc les 6-8, voilà, ils sont encore très, très purs, on va dire, dans leurs élans. Ils jouent, ils savent créer, imaginer. Et tout de suite après, c'est à peu près le moment où on rentre à l'école, donc on va sociabiliser, on va vouloir correspondre à des groupes d'individus. Voilà. Et bien là, oui, on se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup de mal, et aussi à prendre confiance en soi, à prendre conscience de son corps et à sortir des entraves de gestuelles, ne serait-ce que bouger, s'exprimer, voilà. Être à l'aise dans son corps, c'est déjà très compliqué aujourd'hui. C'est vraiment, les jeunes sont, pour la plupart, pas du tout à l'aise et pas du tout sereins avec eux-mêmes, ce qui n'est pas étonnant. Comment être soi-même dans une société où on nous empêche de l'être, où on se standardise et tout est codifié, absolument.
C'est ça qui est assez étonnant, oui. C'est qu'en fait, on pensait... Je revois mes années de jeunesse. Enfin, on dit 68, après, il va y avoir une liberté, ça va être...
Oui.
Et en fait, pas du tout.
Mais justement, moi, je crois que c'est là où le théâtre prend une vraie grosse, grande place, je trouve. Et c'est à la fois la découverte de textes, d'exercices, mais c'est une porte ouverte vers la connaissance de soi.
Exactement.
Vers son affirmation. Il y a beaucoup d'enfants qui sont venus au théâtre, jeunes, amenés par les parents, parce qu'ils sont super timides, ils n'ouvrent pas la bouche. Et au fil des ans, on les voit changer, s'affirmer. Et il n'y a pas que les enfants. Hein. C'est quelque chose qu'on voit aussi chez les adultes. Hein. C'est effectivement, comme le disait Mélanie, accepter son corps, prendre sa place sans écrabouiller les autres, mais trouver sa dimension, prendre sa place, oser parler fort ou moins. Et puis, il y a tout un travail ensemble, un travail en commun, parce que faire du théâtre, c'est pas, enfin, sauf si on fait du one-man show, mais si on est dans une pratique de théâtre ou de préparation de pièces ou je ne sais quoi, on travaille avec les autres, on est obligé de s'écouter, on ne peut pas intervenir à n'importe quel moment dans le jeu, il faut se déplacer, il faut regarder les gens, il faut être à l'écoute des autres
Il y a un cadre et des règles. Et j'allais dire
quelque chose de tout à fait personnel, parce que je pratique le tai chi en dehors du théâtre. Et dans le tai chi, il y a aussi toute une écoute de l'autre. Alors, c'est souvent une écoute corporelle dans des exercices à deux. Mais il y a aussi une écoute qui se fait parfois sans contact, donc en silence, donc une approche de l'autre qui se fait comme ça. Et moi, je retrouve dans le théâtre des exercices qui sont un petit peu amenés de façon différente, mais qui sont aussi une approche de comment communiquer avec l'autre et acquérir aussi ce respect de la différence de l'autre, quoi.
Dans le cadre, effectivement, de ce que tu viens d'évoquer, qui sont des exercices de l'art dramatique. Je fais la distinction théâtre et art dramatique. Donc de l'art dramatique, qui aujourd'hui, l'art dramatique est utilisé par les psychologues, peut l'être, je ne vais pas faire une généralité, mais peut être utilisé par les psychologues, par différentes formes de thérapie, de développement personnel, etc., 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 en vue de, et c'est ce que je dis depuis le début de l'année à mes élèves, je ne cherche pas à vous apprendre à jouer, d'ailleurs je ne vous apprends pas grand-chose.
Vous apprendre à être.
Mais exactement. Est-ce que vous allez réussir à vous permettre d'être ? Parce qu'en soi, j'essaye de leur ouvrir des portes, mais je n'ai en rien, en tant que figure d'autorité sur la scène, je n'ai en rien la parole juste moi-même, ni le droit de leur dire que c'est moi j'ai raison, que c'est comme ceci qu'il faut être. Pas du tout, chacun a sa vérité et c'est ce qu'ils tendent à chercher, en tout cas.
C'est très difficile de prendre la parole, s'autoriser à parler en public ou ailleurs, parce qu'en fait, quels sont les lieux où on permet à l'individu de prendre la parole?
Absolument.
Alors, des fois, on dit effectivement, moi je dirais le café derrière le comptoir, quoi, la
et
parole du comptoir.
Est-ce qu'on écoute?
Et maintenant, finalement, il y a de moins en moins de café. Autrefois, effectivement, il y avait beaucoup de café et beaucoup de gens, alors on disait les conversations de comptoir, mais dans lesquelles se passaient des choses.
Absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est... Je suis moi-même assez surprise que la plupart des jeunes viennent avec des questions, des vraies questions assez existentielles, ou me demandent des conseils sur leur vie de tous les jours qui n'ont
rien à voir avec le théâtre.
Bah, du coup, ça n'a pas rien à voir, ça a un lien, mais qui effectivement sortent du contexte du cours parce qu'ils ont besoin d'un endroit où s'exprimer, comme vous le disiez très justement. Et d'ailleurs... je fais une petite insiste sur s'exprimer, ne serait-ce que lire à voix haute. Je remarque, alors je ne sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui à l'école on le font plus, lire à voix haute, mais c'est une catastrophe en fait. Aujourd'hui, des jeunes même de 15 ans ne savent plus lire à voix haute, s'exprimer. Et j'en étais très surprise, en fait.
Moi, je n'en suis pas surprise, parce que je me souviens, il y a peut-être 15 ou 20 ans de ça, avoir entendu dans des conférences pédagogiques que c'était complètement dépassé de faire de la lecture à voix haute. Or, c'est un plaisir, et puis c'est un échange. Et puis, mais ça, je me souviens très bien d'avoir entendu ça. C'était banni... La lecture
d'accord,
à voix
oui,
haute.
Donc déjà depuis un certain temps. Étonnant. Mais, et d'ailleurs, ça n'aide pas le fait qu'ils ne le pratiquent pas à l'école. C'est quand même là où ils passent le plus de temps de leur semaine, c'est à l'école. Ils n'apprennent pas à s'exprimer, tout simplement. Ou à être au fait de ce qui se passe dans la société. Je rebondis sur notre conversation précédente. Moi, j'ai des jeunes femmes de 17 ans qui ne savent pas ce qui se passe aujourd'hui dans la rue, que ce soit en France, mais dans le monde, au Chili. Enfin, je trouve ça... assez dingue que l'école ne leur parle pas de l'actualité. Enfin voilà. Donc le théâtre sert aussi à ça. C'est
l'école ne peut pas tout faire, le théâtre ne peut pas tout faire, mais chacun sa part.
Et voilà. Oui,
merci de venir nous dire, Radio Grand Ciel, la part que vous prenez dans cette éducation populaire. Voilà. Et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous.
Merci à tous.
Et ne manquez pas d'aller voir les pièces de théâtre qui sont données au Cercle laïque.
Merci de nous avoir reçus.